Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu, s'il vous plaît. On va tourner dans Matthieu 27. Matthieu 27, nous sommes rendus au verset 57 ce matin. Avant de passer un mot de prière et puis de lire le passage, j'aimerais ça offrir mes sympathies. J'ai vu que Marcel était ici à l'avant tout à l'heure. Où est-ce que t'es, Marcel? Marcel Leduc, est-ce qu'il est toujours là? Oui, Marcel. Ton frère est décédé hier matin? OK. On savait là, que ça s'en venait depuis quelques jours. Là. Paul-André, ton deuxième frère qui est décédé dans l'année. Là. Nos cœurs sont avec vous. J'avais pas les détails, mais Michel m'a dit que c'était un cancer au niveau du foie, c'est ça? OK. Alors, j'aimerais ça vous inviter à prier pour la famille Leduc. Ça fait beaucoup de bouleversements dans cette année-là, et puis des relations aussi qui étaient assez proches. Donc, c'est définitivement difficile. Et on va aller tout de suite dans la prière. Pendant la semaine, vous aurez par courriel ou si vous avez besoin d'infos, il y a toujours moyen de donner un coup de fil à Danny ici mardi pour avoir plus d'informations, j'imagine, sur le service, tout ça. Alors, on va se courber ensemble dans un mot de prière. Père éternel, on vient devant toi pour t'amener la famille Leduc que tu bénis avec cette bourse pour Josiane, Seigneur, et de voir les enfants qui veulent marcher avec toi, qui veulent s'approcher de toi, qui veulent grandir dans leur foi. Tu bénis, Seigneur, la famille Leduc. Mais la vie ici-bas étant ce qu'elle est, Seigneur, nous vivons sous ce nuage, Seigneur. T'as maudit toute la création à cause du péché, et la mort est là, elle est présente. Et nous passons, Seigneur, de joie et d'espérance à tristesse et deuil constamment, Seigneur. Je pense même au petit Névins qui est ici avec nous pour la première fois. Seigneur, nous voyons la vie et la mort et nous côtoyons tout cela, Seigneur. J'aimerais te prier pour Marcel spécialement et toute la famille Leduc et Seigneur, les frères aussi de Marcel qui ont tellement besoin de ta grâce, toute la famille élargie, qui ont besoin, Seigneur, de voir l'Évangile, la consolation que tu peux amener, Seigneur. La consolation de savoir que tu es là, que tu veilles et qu'on peut se réconcilier avec toi, Seigneur. Alors, je te prie, Père, de venir mettre un baume sur le cœur de Marcel. Je te prie, Père, de venir amener une consolation dans la famille aussi, comme toi seul peux le faire, Seigneur. Je te prie, Père, d'ouvrir des portes pour l'Évangile. Il y a une manière, Seigneur, tellement plus bénie de faire face à la mort lorsqu'on regarde à toi, Seigneur. Et je te demande de faire entrer l'Évangile dans cette famille davantage. Pour ta gloire, Seigneur, pour la consolation de Marcel, de Linda, des enfants, de voir l'Évangile pénétrer, Seigneur. Père, j'aimerais te prier pour tous ceux et celles qui passent par des deuils dans l'Église. Et une autre personne me partageait ce matin, Seigneur. Et parfois c'est difficile à vivre parce que nous voudrions, Seigneur, espérer le salut de nos proches. Mais des fois, Seigneur, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'indice clair qu'on peut espérer qu'ils se sont confiés en toi vraiment. Je demande, Père, de consoler tous ceux qui sont en train de vivre un deuil actuellement. Viens leur donner ta paix, viens les aider à fixer les regards sur le jour où ils seront dans ta présence et tu essuieras toute larme, Seigneur, et ces tristesses, ces vieilles blessures de la vie que nous traînons seront entièrement effacées. Il n'y aura plus que joie dans ta présence, Seigneur. Père, j'aimerais te prier pour nous ce matin. Nous sommes assemblés pour nous pencher sur ta parole, pour pencher les regards sur ta parole. Et comme on le dit avec les enfants, c'est une lettre que tu nous as écrite, Seigneur. Alors, je te prie de nous aider à la lire avec attention, à chercher à entendre ce que tu veux nous dire ce matin dans cette lettre, Seigneur. Dans ce passage de Matthieu, aide-nous à entendre ton cœur, à voir ta puissance et ta majesté, Avouons, Seigneur, que tu règnes envers et contre tous, malgré toute l'opposition qu'il peut y avoir. Tu es Seigneur et tu règnes. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de bien exposer ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à vivre ces vérités quotidiennement pour y puiser toute la puissance, la paix, la joie, la sérénité qui se trouve à marcher avec toi, Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur Jésus, pour toute personne dans cette assemblée ce matin qui ne se serait pas identifiée personnellement à ton sacrifice. Toute personne dans cette salle qui ne comprend pas encore la grâce qui lui est offerte ou qui ne l'a pas saisie encore, viens lui accorder la grâce de saisir l'Évangile ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Vous êtes avec moi dans Matthieu 27, verset 57. Et je vais lire jusqu'à Matthieu 28, 15, d'accord? Une longue portion des Écritures ce matin. Le soir étant venu, alors Jésus est décédé, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Lorsque j'ai commencé à étudier le passage, ce qui m'a le plus intrigué dans ce passage, c'est ce commentaire de Matthieu à la fin. Lorsque Matthieu écrit l'évangile de Matthieu, on est des années plus tard, et Matthieu prend le temps de faire ce tout petit commentaire à la fin pour expliquer la rumeur qui court encore parmi les Juifs au moment où il écrit cette lettre. Matthieu dit, « Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. » C'est comme si Matthieu est en train de préparer ses lecteurs qui sont des croyants, qui croient en Jésus-Christ. Matthieu est en train de les préparer au fait qu'il va toujours y avoir de l'opposition malgré tout ce qui est en train de se passer. Et en fait, si vous regardez un petit peu plus loin, le verset 17, parce que là, Jésus va se manifester à ses disciples directement. Et voici ce qui est écrit. C'est vraiment même surprenant, dans une première lecture un peu troublant. Verset 17, « Quand ils le virent, les disciples voient Jésus. Il est ressuscité, il est devant eux. » Matthieu est très honnête avec nous. Il dit, « Ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » Jésus est physiquement devant eux. Matthieu prend le temps de nous dire, quelques-uns eurent des doutes. Et c'est comme si Matthieu, c'est ce que je comprends, est en train de nous dire, il va toujours y avoir de l'incrédulité. Il va toujours y avoir de l'opposition aussi. Et ces gens qui auraient dû comprendre, je veux dire, les soldats viennent leur rapporter qu'un ange est venu, qu'ils sont tombés par terre. Ces gens auraient dû, leur cœur aurait dû être changé à ce moment-là. Il va toujours y avoir de l'opposition et il va toujours y avoir de l'incrédulité. Et vous savez quoi? Les temps n'ont pas tellement changé. Cette semaine, j'ai pris le temps juste de vérifier ce qui m'avait déjà frappé dans le passé. Si vous allez sur Google, vous allez sur Internet, vous faites une recherche, vous tapez « christianisme » en anglais ou en français, vous allez avoir à tout coup à peu près le même résultat. Dans la deuxième ou troisième entrée qu'on vous offre ou lien qu'on vous offre en faisant une recherche, vous allez trouver des sites qui s'attaquent avec beaucoup d'agressivité au christianisme. À tout coup, en anglais, en français. Cette opposition, cette constance à vouloir dire que le christianisme est une arnaque a toujours été là à travers l'histoire. C'est constamment présent. Les temps ne changent pas vraiment. Et ça me frappe. Et Matthieu veut, à travers ce passage, alors qu'il est en train de célébrer dans un sens la résurrection de Jésus-Christ, je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, mais il nous parle de la résurrection de Jésus-Christ, mais c'est sans trompette ni tambour. Ça, il ne met pas tout son accent là-dessus. Autour de ça, tout le long, il y a encore des manigances qui sont en train de se tramer. Il y a encore de l'opposition qui est en train de se préparer. Il y a encore de l'incrédulité qui persiste. Et donc, Matthieu veut que tous les chrétiens de tous les âges soient très lucides. Ce que je veux faire ce matin avec vous, c'est simplement souligner trois éléments du texte. Trois éléments que je trouve importants, d'accord? Le premier, malgré les manigances et toute l'opposition, Jésus-Christ est ressuscité. Malgré les manigances et toute l'opposition, Jésus-Christ est ressuscité. Ils ont manigancé pour le clouer à la croix. Si vous êtes avec nous depuis quelques mois, vous êtes familier avec les événements qui précèdent la crucifixion. Ils ont manigancé pour le clouer à la croix, mais sans réaliser qu'ils étaient en train d'accomplir les desseins de Dieu. D'accord? Ils étaient en train de manigancer, mais en même temps, ils ne le réalisaient pas. Ils étaient en train d'accomplir tout simplement les plans de Dieu. Cette fois-ci, dans le passage ce matin, ils sont encore en train de manigancer, cette fois-là, pour le garder dans le tombeau. D'accord? Ils ne voudraient surtout pas qu'ils sortent. Ils ne s'attendent pas à une résurrection, on s'entend. Mais ils veulent le garder là et donc ils sont en train de travailler fort. Ils ne veulent pas que Jésus ressuscite ou que Jésus soit déclaré ressuscité. Pourtant, Jésus-Christ ressuscite. J'ai aimé le commentaire, dans un des commentaires que j'ai lu, il dit, c'est comme si de tout le passage, on a l'impression d'entendre Dieu rire. Devant toutes les petites manigances, les magouilles pour essayer, on a l'impression qu'on pourrait entendre Dieu en train de rire à travers toutes ces circonstances-là. Et voyez-vous, Jésus-Christ ressuscite, il y a un tremblement de terre, il y a un ange qui vient. Et ça m'a frappé. L'ange roule la pierre et ça ressemblait à ça un petit peu. Et évidemment, l'ange n'avait pas un porte-voix, d'accord? Je parle de l'image en bas. Mais la pierre qui est roulée. L'ange roule la pierre, c'était une pierre énorme, ça prenait quelques hommes pour la rouler, c'était pour protéger le tombeau des pillards, c'était pour protéger le tombeau des bêtes qui, évidemment, iraient se nourrir sur le cadavre. Et donc, l'ange roule la pierre, puis l'ange s'assoit sur le dessus de la pierre. C'est comme bizarre. C'est un ange, il peut s'asseoir où il veut, on s'entend, mais comprenez, il roule la pierre, il s'assoit sur la pierre, puis il est là. C'est pas un siège, cette affaire-là. Puis là, il y a des soldats qui sont là, puis il y a des femmes qui sont là, puis quand l'ange apparaît, les soldats tombent comme morts, ils perdent connaissance, puis ils commencent à jaser avec les femmes. Il est assis sur sa pierre. Tournez avec moi dans le psaume 2. Psaume 2. Il me semble qu'il manquait juste un cappuccino, mais bon. Je n'ai pas été consulté sur celle-là. Moi, j'aurais vu avec un cappuccino, ça aurait été comme le. Ça aurait complété la scène. Psaume 2. Versets 1 et 2. Il s'agit d'un texte prophétique. Et je ne vais pas exposer tout le psaume 2. Mais je veux simplement que vous saisissiez à quel point Dieu règne et les hommes magouillent, préparent des choses, essaient de s'opposer à Dieu, mais Dieu règne. Et à travers tout cela, paisiblement, Dieu accomplit ses desseins, ses projets, ses plans à perfection. Psaume 2, les versets 1 et 2. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, son élu? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Voyez-vous, les nations sont en train de s'opposer à Dieu, sont en train de magouiller, de préparer des plans pour toujours résister à ce que Dieu est en train d'accomplir. Mais Dieu règne dans les cieux et les hommes auront beau faire, auront beau dire, Dieu en tout temps va accomplir ses desseins. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 12, embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Les hommes sont encore en train de magouiller, sont encore en train de manigancer des choses avec des mensonges. Ils sont en train d'essayer de faire opposition. Mais Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus-Christ. Au moment où il a rendu l'esprit, on l'a dit, il y a eu un tremblement de terre, le voile s'est déchiré, le voile du temple s'est déchiré, des croyants anciens ont ressuscité. Les inconvertis, les soldats romains qui étaient là, se sont exclamés en disant « Certainement, celui-ci était fils de Dieu. » Et Christ devait ressusciter parce que Dieu a approuvé son sacrifice. Alors, dans le passage qu'on voit ce matin, il y a encore un tremblement de terre. Et un ange vient et il y a beau avoir une garde armée qui est là, il tombe comme mort par terre. L'ange roule la pierre, mais Christ est déjà ressuscité, il n'est pas dans le tombeau. L'ange est assis sur la pierre et parle à ses femmes qui sont là. Et il y a une espèce d'ironie de la part de Dieu. Il faut savoir, et je ne voudrais surtout pas offenser les dames ce matin, mais essayez quand même de retourner un petit peu dans l'histoire et de voir la scène. Vous avez ce qui représente l'autorité dans une société, les soldats, une garde armée qui est là. Mais eux sont couchés par terre en train de faire dodo, les garçons, parce qu'ils se sont évanouis. Ils ont eu peur. Ils se sont évanouis. Et il y a des dames, et vraiment aucune offense aux dames. Vous comprenez qu'elle ne faisait pas figure d'autorité à l'époque? Si tu avais un homme et une femme qui venaient témoigner en cours, définitivement, le témoignage de l'homme était emporté tout de suite. C'est lui qui était pris. Mais Dieu, dans sa souveraineté, cet ange est là et s'adresse aux femmes. Et vous avez cette scène où cet ange est assis sur cette pierre. Les hommes auront beau faire, ils auront beau dire, Dieu règne. Dieu accomplit ses desseins. Dieu l'a fait à l'époque, Dieu l'avait fait dans les temps anciens avant, et Dieu va le faire encore. Dieu va mener à terme tout ce qu'il a promis qu'il ferait. Et si ça fait 2 ans qu'on attend le retour de Jésus-Christ, nous n'attendons pas en vain, parce que Dieu va accomplir ses desseins. Première chose, malgré les manigances, malgré toute l'opposition, Jésus-Christ est ressuscité. Les hommes ont beau manigancer, ils ne pourront jamais réussir à s'opposer. Ils ont manigancé pour le clouer à la croix. Ils ne réalisaient pas, ils étaient en train d'aider Christ à accomplir sa mission pendant qu'ils faisaient leur magouille. Je ne sais pas, dans votre contexte de travail, dans vos amis, dans votre famille, peut-être que vous essayez d'ouvrir la bouche, vous essayez de parler, puis il y a des gens. Les gens aiment les potins. Les gens aiment parler dans le dos. Les gens aiment juste, tu sais, alimenter quelque chose, une image, et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à bâtir votre témoignage. Vous n'arrivez pas à avancer. Soyez simplement fidèles. Dieu peut se servir d'un contexte où quelqu'un fait du commérage dans votre dos pour conduire une âme à Christ. Vous savez ça? Vous savez que Dieu peut confondre un méchant, un ennemi autour de vous au travail qui est en train de parler dans votre dos. Puis Dieu va se servir de ça parce que peut-être ça va être votre attitude qui va venir faire la différence. Mais il y a un observateur silencieux qui est en train de regarder votre attitude, votre comportement. Et ces comportements, ce commérage qui se fait dans votre dos entre même dans les desseins de Dieu. Parce que Dieu peut se servir de ça pour conduire quelqu'un au salut. Ils ont manigancé pour le clouer à la croix. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient en train d'aider Christ à accomplir sa mission. C'est aussi simple que ça. Ils ont manigancé pour le garder dans le tombeau. C'est impossible de le garder là. Dieu est crampé en deux puis accomplit ce qu'il a à faire. Et ici, à la fin du récit, ils manigancent maintenant pour dire « Oui, mais ce sont ses disciples qui sont venus voler. » Écoutez, si vous voulez des bonnes lectures là-dessus, il y a tellement des bons livres. La résurrection de Joseph Stowell, c'est ridicule comme idée. Vous avez une gang de chickens qui, là, tout d'un coup, sont venus s'attaquer. Puis ils ont réussi à rouler la pierre. Les soldats ne les ont pas empêchés. Ils ont volé le corps. C'est complètement farfelu comme histoire. Des soldats qui viennent dire, vous comprenez pourquoi ils devaient être protégés. Hein? Vous avez des soldats qui disent, on a dormi sa job. Pendant ce temps-là, les disciples ont roulé une pierre. On ne s'est jamais réveillé. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait consommé quelque chose la veille, je ne sais pas. Mais on a dormi, c'était dur, tu sais. Puis on a dormi sa job. C'est correct, on va vous mettre à mort. Un soldat qui dort sa job, tu le mets à mort. Ah non, non, je ne sais pas pourquoi ça a passé, tu sais. Puis la rumeur court encore. C'est complètement farfelu, cette histoire-là. Mais ils ont beau manigancer, ils n'arriveront pas à avancer. Et lorsque Matthieu est en train d'écrire cette lettre-là, il dit « Parmi les Juifs, la rumeur court encore que les disciples ont volé le corps. » Quand Matthieu est en train d'écrire cela, l'Évangile est en train de se répandre dans l'Empire romain à une vitesse incroyable. Vous comprenez, ça se passe quelques années plus tard. Quand Matthieu écrit ça, on est quelques années plus tard et Matthieu est déjà témoin de l'Évangile qui est en train de se répandre partout à travers l'Empire. La rumeur court que c'est une arnaque et l'Évangile se répand dans l'Empire. Laissez-moi vous lire un témoignage. Tertullien, c'est pas de sa faute, je l'ai déjà dit, sa mère l'aimait peut-être pas beaucoup, mais il s'appelait Tertullien. Il a vécu entre les années 150 et 230. Voici ce que Tertullien écrit dans une défense du christianisme. Écoutez bien ceci. Il dit « Nous sommes leurs sujets paisibles et dévoués », en parlant de la relation entre l'Empire et les chrétiens. Nous sommes leurs sujets paisibles et dévoués, malgré les tourments dont on nous accable. Parce qu'à cette époque-là, au moment où Tertullien écrit, les chrétiens sont énormément persécutés. Nous ne sommes que d'hier, 100 ans, 120 ans, que Christ est venu, que Christ est parti. Nous ne sommes que d'hier et nous remplissons tout. Vos villes, vos îles, vos châteaux, vos municipalités, vos conseils, vos camps, vos tribus, vos décuries, le palais, le sénat, le forum, nous ne vous laissons que vos temples. Quelle guerre ne serions-nous pas coupables d'entreprendre? Mais nous n'avons aucun intérêt à former des factions illicites. Une centaine d'années après, le christianisme est répandu partout dans l'Empire. Alors, voyez-vous, cette dernière manigance pour essayer de faire étouffer le mouvement et faire croire que les disciples ont volé. Matthieu est en train de nous dire, ça va continuer ça. Il va toujours y avoir de l'opposition, mais Dieu règne. Et c'est à travers l'opposition que le christianisme s'est toujours répandu. Parce que Christ vient bouleverser nos vies, transformer nos vies, et ce qui fait avancer l'Évangile, c'est pas les games politiques. C'est nos vies transformées qu'on met sur la table et nous invitons des gens à entrer dans nos vies, à voir ce qui se passe dans nos vies. Ils nous voient aimer nos ennemis, ils nous voient nous donner, ils nous voient être généreux, ils nous voient être fidèles, ils nous voient aimer notre épouse, ils nous voient aimer nos enfants, ils voient comment nous vivons dans nos maisons, comment nous vivons au travail, comment nous gérons nos finances. Et à ce moment-là, ils disent, OK, j'avais entendu dire que c'était une arnaque cette affaire-là, mais il y a pas mal plus que ça ici. Tout comme le centenier qui a déclaré, celui-ci était fils de Dieu. Alors voyez-vous, il y aura toujours des manigances et de l'opposition, mais Christ est ressuscité. Premier élément, malgré les manigances, Christ est ressuscité et Dieu va faire avancer son royaume. Deuxième élément à retenir, le bruit continuera de courir que c'est une arnaque. Ça va toujours continuer. Si vous attendez dans votre attitude, soit pour témoigner dans la famille, pour témoigner au travail, vous savez, des fois on est en train d'avoir du bon temps avec les gens, puis là, tu voudrais leur parler, tout ça, puis tu cherches comment je pourrais présenter l'Évangile d'une manière comme qui rentre bien, puis tout est bien fini. Ou si vous attendez le moment où le christianisme va devenir comme une affaire in, tu sais, ça va devenir à la mode. Parce que c'est sûr, on se pose des questions, on se dit oui, mais on a quelque chose pour changer le cœur des gens en prison, pour changer le cœur des conflits dans les couples. C'est extraordinaire ce que nous avons. Cette semaine, j'étais avec Michel, puis on était en train de déjeuner, puis je dis Michel, on a juste à exposer les gens à notre vie. On vit une vie tellement extraordinaire comme chrétien. Ma vie est tellement fantastique. Puis on se dit oui, mais à un moment donné, les gens vont comprendre. Oubliez ça. Il va toujours y avoir de l'opposition. Si vous attendez que le christianisme devienne une mode ou que vous soyez dans une conversation, puis là, c'est comme, ça va être cool, tu vas pouvoir dire, « Hey, by the way, je suis chrétien, hein, si tu as des questions. » Oubliez ça, ça ne marchera pas. Ça va toujours passer pour une arnaque, tout le temps. L'opposition va continuer jusqu'à la fin. La marginalité et le christianisme, ça va ensemble. Christ nous l'a dit que ça va être comme ça. C'est comme ça que lui l'a vécu. Écoutez, vous aviez notre Superman. Jésus-Christ était là. Il faisait des miracles, mes amis, tout le kit. Ils l'ont crucifié. Vous suivez un gars qui est mort crucifié. Pensez-vous vraiment que vous allez être in à un moment donné? Pas vraiment. Et en fait, lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, à chaque fois que le christianisme est devenu in, est devenu à la mode, ça a commencé à déraper. À chaque moment, à travers l'histoire de l'Église, où c'est devenu la nouvelle patente, il faut être un chrétien, il y a encore plus d'hommerie. Vous trouvez qu'il y a de l'hommerie, hein? Des fois dans l'Église, vous trouvez que des fois, on n'est comme pas vraiment à la hauteur. Puis vous dites, ah, l'Église n'est pas toujours aussi belle que je voudrais. Attendez un peu, si on était à mode, ce serait une autre histoire. Vous comprenez? Parce que là, je veux dire, tu t'achètes un poste. Il fut un temps où tu achetais le poste de pasteur. Fait que si tu avais de l'argent, ben tu pouvais acheter un poste de pasteur pour ton fils. Puis à ce moment-là, il était bien en vue dans la société. Vous imaginez la corruption qui est associée à l'Église à ce moment-là. Alors, si vous voyez que le christianisme devient vraiment la mode, à part lorsqu'on sera au ciel, soyez suspicieux. Posez-vous des questions. On ne sera jamais à la mode. On ne sera jamais à la mode. Nous allons toujours faire la conquête d'un cœur à la fois. Un cœur à la fois parce qu'ils sont exposés à notre vie à nous. Ce qui m'a frappé dans le passage, c'est l'entêtement. Voyez-vous, il y a des gens qui, au tout début du ministère de Jésus, au début de l'Évangile de Matthieu, il y a des gens, la première fois qu'ils l'ont entendu, ils ont dit, celui-là, c'est notre ennemi. Il s'en vient contre l'institution, il s'en vient contre les docteurs de la loi, il s'en vient s'opposer à nous. Il est en train de dénoncer notre espèce de petite religiosité qui sert, dans le fond, juste à se donner une bonne conscience puis se donner une bonne image. Puis il est en train d'attaquer toutes ces choses-là. Eux autres ont dit, celui-là, c'est notre ennemi. Et il va demeurer leur ennemi jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui a vu la gloire, sinon les disciples, il n'y a personne qui a vu la gloire de Christ comme ses ennemis. Dieu leur a tout donné pour qu'ils se convertissent. Même jusqu'à ces gardes qui viennent et qui disent, écoutez, on est mal pris, il y a un ange qui est apparu, il y a un tremblement de terre, on a tous perdu connaissance, puis pouf, il n'est plus là. Si ces hommes-là avaient été moindrement intègres, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient cherché des disciples, puis ils auraient dit, « Ouais, mais écoute, finalement, c'est-tu vrai votre affaire? » Parce que là, on avait mis des gardes, puis le corps n'est plus là, puis ils nous disent qu'il y a eu un ange. Est-ce que c'est vrai, votre histoire? J'aimerais ça le rencontrer. Peux-tu m'arranger un meeting avant qu'il parte? Mais non, il n'y avait pas d'intégrité. Ces gens-là avaient déterminé au début qu'ils seraient ennemis de Christ, et ils ont été ennemis jusqu'à la fin. Quelques-uns se sont convertis. Joseph d'Arimathée, qui est ici, un autre des évangiles, nous dit que c'est un membre du Sanhédrin. Alors, il y en a quelques-uns qui se sont convertis. Ce que je voudrais souligner avec ça, c'est que si vous attendez que certaines personnes dans votre famille, certaines personnes au travail qui vous font opposition, qui vous attaquent sur votre foi, qui sont méprisants, chaque fois que vous ouvrez la bouche, il y a cette petite phrase-là pour te narguer. Si vous attendez que ces gens-là deviennent amis de Dieu pour commencer à ouvrir la bouche, vous attendez en vain. Il y a des gens qui ont déterminé qu'ils seraient ennemis de Dieu jusqu'à la fin. Priez pour eux. Faites-leur du bien. Attendez pas qu'ils changent pour commencer à ouvrir la bouche. Comprenez que l'Évangile avance à travers l'opposition. Elle va continuer jusqu'à la fin. Nous vivons toujours dans cette espèce de climat de tension où nous sommes admirés et haïs, appréciés et méprisés. Vous avez des belles valeurs familiales. C'est juste des valeurs que vous alliez à l'Église. T'sais. Moi, je pensais que tu étais intelligent, mais j'ai appris que tu croyais en Jésus ressuscité. On vit toujours comme ça. Alors, il y a des gens, au début de l'évangile de Matthieu, qui ont déterminé qu'ils seraient ennemis de Jésus-Christ. Et Jésus aura beau faire, il aura beau tout faire pour les aider à se convertir, ils ne veulent absolument rien savoir. C'est le contexte dans lequel nous sommes appelés à apporter le message de la bonne nouvelle. C'est le contexte dans lequel on est appelé à apporter le message de la bonne nouvelle. Premièrement, malgré les manigances et toute l'opposition, Jésus-Christ est ressuscité. Dieu va accomplir ses desseins. Jésus-Christ va revenir, les amis. Deuxièmement, le bruit continuera de courir que c'est une arnaque. Ça va continuer. Alors, choisis ton camp, choisis de marcher avec Christ et proclame Jésus-Christ. Peu importe l'opposition. Peu importe l'opposition. Il y en a qui vont refuser jusqu'à la fin. Il y en a qui vont être confondus par ton témoignage à travers l'opposition. Troisièmement, Jésus-Christ va continuer à confier son message aux messagers les plus improbables. Et il y a encore une fois de l'ironie dans ce que Matthieu écrit ici. Un disciple, c'est quelqu'un qui décide de suivre un maître. Vous êtes d'accord avec moi? Si je suis disciple de quelqu'un, c'est parce que je décide de suivre un maître. Je vais apprendre, je vais l'observer, je suis son disciple. Dans l'histoire ici, les personnes qui se comportent comme des disciples de Jésus-Christ, ce sont les dames. Parce que les autres, écoute, sont en train de se cacher dans un trou. Ses disciples, Jésus les appelle ses disciples. On est quand même dans le contexte. Hein? Il parle des femmes, puis de ses disciples. Ça, c'est les gars, puis ça, c'est les femmes. Mais les disciples, eux autres, sont cachés dans un trou. Bouleversés, renversés, en train de se sauver. Les dames sont restées là tout le long. Et au moment où Joseph d'Arimathée met le corps de Jésus dans le tombeau, les dames sont encore en train de suivre le maître jusqu'au tombeau. Je veux dire, ces dames-là devaient être bouleversées aussi. Elles devaient vivre un questionnement incroyable. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pas juste les gars qui... Non, elles aussi devaient dire, ouais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui arrive? Mais elles sont notre modèle de disciples de Jésus-Christ. Et elles le suivent jusqu'au tombeau. Elles sont là, assises dans le tombeau, devant le tombeau, lorsque le corps de Christ est mis dans le tombeau. Le lendemain matin, elles sont là encore. À qui Jésus-Christ va-t-il se révéler? À ces femmes qui sont nos modèles de disciples de Christ parce qu'elles ont suivi fidèlement. Et regardez bien ce que Jésus leur confie, parce que l'ange au début, tu as l'impression que ça va s'arrêter là, il n'y aura pas nécessairement de manifestation de Jésus aux dames. L'ange leur dit, il est ressuscité, venez, voyez, il est ressuscité au verset 6, Matthieu 28, 6, puis verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, hop, ça va s'arrêter là, elles vont se rendre là-bas, puis tout le monde va le voir en même temps. Non. Ces femmes-là sont nos modèles. Ces dames sont nos modèles de disciples de Christ. Et donc, Jésus va leur apparaître à elles premièrement. et je vous le dis, nous, on lit les Écritures avec les yeux d'aujourd'hui, puis on se dit, bon, OK, les gars, des filles, ça aurait pu être ça. Non! Non! Jésus-Christ confie le premier témoignage qu'il est ressuscité des morts. Je m'excuse de le dire comme ça, mesdames, mais aux témoins les moins fiables. Je sais que c'est terrible ce que je dis là. Citez-moi par contexte, pitié. Mais vous comprenez, replacez-vous à l'époque, là. C'est pas fiable comme témoignage. Jésus aurait pu juste, je sais pas, apparaître dans le temple, tu sais, devant les prêtres, puis juste les brasser, puis leur dire, regardez, je suis vivant. Non. C'est pas comme ça que Christ travaille. Et voici ce que Jésus leur dit. « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Les premiers messagers du Christ ressuscité, ce sont des messagères. Et peut-être que dans votre contexte de travail, vous dites, « j'ai pas ce qu'il faut, moi, pour être un témoin de Christ. » Vous savez, des fois, on entend dire qu'il y a une vedette de cinéma, de sport, n'importe quoi. Tu sais, tu regardes au Québec, puis là, tu dis, ah, je ne sais pas si vous avez fait ça, moi, j'ai fait ça au début de ma vie chrétienne, à un moment donné, je priais comme pour que Dieu vienne sauver, tu sais, quelqu'un d'important au Québec. Là. Il y en a un dernièrement qui est allé avec un nid de clown dans l'espace. Tu sais. S'il se convertissait, celui-là, là, puis tout d'un coup, il se mettait à dire, ah, j'ai connu Jésus-Christ. Waouh, il y avait des conversions. Wow. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas de même. Il y a eu Paul, bon, Paul, c'est l'exception de la gang. Il est allé en chercher un compétent, je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment l'exception. C'est vraiment l'exception. Il est allé chercher des hommes qui étaient très ordinaires, puis dans ce cas-ci, il va chercher des dames, les témoins les moins crédibles à cette époque-là. Alors, peut-être que vous voyez dans votre contexte de travail, dans votre famille, dans votre quartier, comme quelqu'un qui n'a pas la parole facile, quelqu'un qui ne peut pas ouvrir la bouche, quelqu'un, c'est pas vous qui allez faire la différence. C'est faux, c'est un mensonge. Le christianisme n'avance pas avec des vedettes. Le christianisme avance avec des gens qui suivent Jésus jusqu'au tombeau. Des gens qui expérimentent et goûtent l'amour de Christ pour leur âme, pour leur salut. Et qui vont annoncer Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous êtes dans un milieu quelconque et que Christ a touché votre cœur, vous avez connu le pardon et le salut qu'il y a en Jésus-Christ, Christ vous envoie. Christ vous envoie pour annoncer l'Évangile. Une dernière observation à partir du passage. Et c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce que Christ fait ici à ses disciples. Regardez comment il les appelle au verset 10. Et ça, c'est Jésus. Et j'aimerais ça vous encourager parce que lorsqu'on parle de témoigner, lorsqu'on parle d'annoncer l'Évangile, lorsqu'on parle d'annoncer le salut, il y a tout un guilt trip qui vient avec ça. Hein, parce que, je veux dire, qui ici trouve qu'il est un super évangéliste? Comprenez? Hier, on était avec la famille, puis j'étais là, puis je me disais, ouais, comme on a du super bon temps, mais comment je peux réussir? Puis je dis au Seigneur, je suis parti, j'étais frustré. J'ai dit, Seigneur, on a tellement eu du bon temps, mais il ne se tourne pas vers moi pour entendre quelque chose là-dessus. Mon influence ne va pas jusque-là. Alors, dès qu'on parle d'évangélisation, il y a comme une espèce de guilt trip qui est là. Mais regardez ce que Jésus fait, verset 10. « Ne craignez pas aller dire à mes frères. » Les gars, c'est des chickens. Ils se sont sauvés, ils se sont poussés, ils l'ont abandonné. C'est des dames qui sont là auprès de lui. Je veux dire, les gars qui avaient des épées, puis tout ça. Les gars l'ont renié, Pierre l'a renié. Et à ce moment-là, Jésus est encore en train de prendre soin de leur âme. Et il dit, allez dire à mes frères. À mes frères. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ton témoignage, est-ce que tu annonces Jésus-Christ? Je ne sais pas si tout ça pour toi, c'est toujours de la culpabilité, du malaise. Tu dis, je ne suis pas à la hauteur, je n'ouvre pas la parole comme je voudrais, je n'ouvre pas la bouche comme je voudrais le faire pour annoncer Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce de Christ. Si tu as cru en lui, tu es son frère, tu es sa sœur, et il va venir vers toi, il va prendre soin de toi. Même si tu es un incompétent comme ses disciples, même si tu es un chicken comme ses disciples, il vient vers toi. Et il dit, t'es mon frère, t'es ma sœur, parce que t'as placé ta foi en moi. Moi, je vais te transformer. Jésus-Christ est ressuscité, il règne. Il va sauver des gens autour de vous à travers les prochaines années. Il va peut-être sauver des gens dans votre famille, des gens autour de vous au travail. Il va sauver des âmes parce que Dieu accomplit ses desseins. Et vous aurez beau dire, vous aurez beau douter, vous aurez beau voir que les choses n'avancent pas, il va accomplir ses desseins. Dieu sauve à tout âge. Et un jour, Christ va revenir. Malgré tout ce qu'on dira, les gens pensent qu'ils sont en train de finir d'enterrer le christianisme. Mon œil. Non, Dieu est dans les cieux, il rit. Il dit, continuez les copains. Un jour, Christ va revenir et vaudra mieux à ce moment-là avoir embrassé le Fils de peur d'être frappé par sa colère. Mais voyez-vous, ces accusations puis cette atmosphère où on nous dit que le christianisme, c'est une arnaque, ça va continuer jusqu'à la fin. Attendez pas que le christianisme devienne une mode pour commencer à ouvrir la bouche ou que ça devienne cool. Quand ça devient cool, soyez suspicieux, posez-vous des questions. Peut-être que vous n'avez pas vraiment annoncé l'Évangile. Je ne sais pas, il manque peut-être un morceau. Avez-vous dit le mot « enfer »,« condamnation éternelle », »,« quelques sauvés »,« beaucoup de perdus ». Tu sais, il y a des phrases comme ça qui remettent toutes les choses en place puis c'est plus à la mode tout d'un coup. Mais attendez pas que ce soit à la mode, ce ne sera jamais. On va toujours dire de nous que c'est une arnaque, que nous sommes des simples, qu'on croit dans une niaiserie. Si Christ vous a touché, vous êtes les messagers dans votre milieu. Laissez les gens entrer dans votre vie. Dites-leur que Jésus est vivant. Laissez-les voir votre vie transformée. Le christianisme est pas mal plus subversif qu'on pourrait le penser. Et c'est lorsque les gens entrent dans nos vies qui... tranquillement, les résistances tombent et disent, sûrement que ton Dieu est vivant, mon ami. J'ai encore de la difficulté à croire, mais il a fait quelque chose dans ta vie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es vivant. Je ne t'ai pas encore vu, Seigneur. Je n'ai pas pu, comme Thomas, toucher les plaies dans tes mains, Seigneur. Aucun ange ne m'est apparu. Je n'ai pas eu de vision personnellement, Seigneur. Tu aurais pu faire tout cela pour moi aujourd'hui, mais rien de cela, Seigneur, ne m'a été accordé. Et pourtant, Seigneur Jésus, tu es entré dans ma vie. Tu as pris un cœur brisé par le péché, par la culpabilité, par le découragement. Et tu m'as fait connaître la grâce d'être réconcilié avec toi, Seigneur. Et je sais au plus profond de mon âme que cette histoire merveilleuse qui est racontée dans la Bible est vraie. Je sais qu'elle est vraie dans ma vie. Je sais qu'elle est vraie dans la vie de mon épouse. Je sais qu'elle est vraie dans ma famille. Je sais qu'elle est vraie dans cette Église, Seigneur. Seigneur, donne-nous seulement le courage de comprendre, d'accepter que l'Évangile passera toujours pour une arnaque aux yeux de certains, qu'il y aura toujours des ennemis de Dieu, des ennemis de l'Évangile. Que ceci ne change rien et qu'au contraire, c'est l'opportunité pour nous de les aimer à travers l'opposition et de proclamer Christ ressuscité à travers l'opposition. Seigneur, notre Dieu, nous voulons déclarer ce matin que nous croyons en toi. Nous savons que tu accomplis tes desseins parfaitement et qu'un jour, Jésus-Christ, et bientôt, je l'espère, tu viendras dans ta gloire et nous célébrerons tes louanges pour l'éternité. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. On va se lever, on va chanter ensemble la résurrection de notre Seigneur.
On tape des mains. Chantez les enfants.